Hello et bienvenue chez les Décopreneurs, le podcast uniquement dédié aux architectes et décorateurs d'intérieur. Moi, c'est Flore Thieu, je suis décoratrice d'intérieur en Rhône-Alpes et donc podcasteuse maintenant chez les Décopreneurs. J'ai créé ce podcast en juin 2020 et c'est un podcast qui se consacre entièrement à l'aspect business des décorateurs et d'architectes d'intérieur. J'ai de la chance vraiment d'interviewer des professionnels du métier qui souhaitent partager en fait leur parcours ainsi que tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils n'ont pas appris, les erreurs qu'ils ont faites, etc. On peut toujours apprendre des autres. Puis ils partagent les décisions qu'ils ont prises, les investissements qu'ils ont faits ou encore les stratégies qu'elles ont menées pour porter leur business. D'autres professions complémentaires passent aussi derrière mon micro, comme des coachs en business, des experts en SEO, des comptables ou même des photographes d'intérieur. Ici, vraiment, on parle uniquement entreprise pour aider les entrepreneurs du domaine de la décoration et de l'architecture d'intérieur à créer et maintenir l'entreprise au service de leur passion. Allez, on y va !
Alors aujourd'hui, je suis avec Betty Wise, j'adore le dire en anglais, elle est coach.
Contenu de marque, on va parler personal branding, même ça je peux le dire en anglais, marketing d'attraction et travailler tout ça d'une façon non intrusive. Je suis ravie que tu es là, bienvenue Betty.
Merci pour ton invitation.
Avec grand plaisir. Je t'ai découvert en fait sur Instagram parce que, je sais pas, tu avais fait un truc drôle que j'ai partagé avec les followers des Décopreneurs et ensuite je suis allée regarder un peu ton compte et tu as une façon de communiquer qui me correspond bien, qui est une façon de dire les choses sans trop voiler la face. Vraiment, tu es assez authentique. Tu dis ce que tu penses et c'est surtout pas ce truc que je déteste et je pense que tout le monde le sait. Je déteste quand on vend quelque chose d'une façon de dire fais ça et tu seras riche demain. Ça, je peux pas. Moi, je suis convaincue, comme je pense la plupart de ceux qui écoutent le podcast, qu'il faut travailler finalement pour obtenir ce qu'on veut. Que c'est jamais... comment on dit ça? De l'eau dans le bec, bref.
Du tout cuit,
voilà. Et ce qui m'a beaucoup attirée dans ton profil, c'est effectivement ce que tu dis aussi. Est-ce que pour l'instant, tu peux commencer juste à me parler de ton entreprise et comment tu es arrivée là?
Yes. Alors, donc moi, je suis maintenant entrepreneur depuis 5 ans. 4 ans en ligne parce que comme tout le monde, j'ai vécu le Covid et il a fallu pivoter et basculer mon business en ligne. Je viens quand même d'un parcours assez classique. Tu vois, j'étais sur des rails, j'ai fait des longues études. J'ai travaillé dans une grande multinationale. J'étais chez Nestlé pendant 14 ans dans un poste corporate pour lequel j'avais énormément travaillé. J'avais énormément d'ambition, on va dire. Et puis, j'ai eu un déclic, un réveil. J'ai perdu quelqu'un de proche quand j'ai eu 35 ans. Mmh. Et ça m'a ouvert les yeux sur le fait de, finalement, le travail, tu passes quand même passablement de temps, plus de temps qu'avec ton mec et tes enfants. Mmh. Et ce que tu fais aujourd'hui n'a pas de sens, n'a pas d'impact. Donc, ça m'a, à un moment donné, mis le coup de pied aux fesses pour partir et me lancer dans la voie de l'entrepreneuriat. J'ai démarré d'abord... forcément, hein, je suis passée à travers un processus où je me suis fait coacher pendant un sacré bout de temps, puis je suis devenue coach, puis coach certifié. Ça aide beaucoup à aussi bien se poser sur qui on est puis ce qu'on veut.
Ouais, bien
sûr. Là, j'ai décidé de partir et étant donné que ça m'avait beaucoup aidé dans mon processus de départ que de me poser toutes ces questions, la première offre que j'ai faite, c'était sur la méthode Ikigai. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une méthode japonaise vraiment que je conseille à tout le monde. Mmh. Tu vas aller trouver le truc qui te donne un petit peu ta raison d'être, c'est-à-dire au niveau de tes passions, de tes talents, de tout ce que tu as déjà en toi, ce que tu pourrais monétiser finalement. Mmh. Et j'ai ouvert mon premier atelier comme ça, en présentiel, et ça a été le début de mon parcours entrepreneurial. J'ai tout de suite eu 10 personnes. Alors, le chiffre est impressionnant. Hein. J'étais totalement en négatif. Il faut quand même jamais oublier ça. C'est qu'on démarre avec des micro-prix. Et puis, au fur et à mesure, on est venu me chercher en me disant, Moi, j'aime bien la façon dont tu as commencé ton business. Est-ce que tu peux nous aider à développer notre business? Donc, j'ai commencé sur les baby steps de l'entrepreneur. Ouais. Puis après, on est venu me chercher sur mon branding en me disant « Waouh, ton branding, il est trop chouette. Est-ce que tu peux m'aider à faire mon branding ?» Et puis, au fur et à mesure, j'ai vachement finalement pivoté et j'ai affiné ce que je proposais. Ce qui m'a toujours vraiment excitée, moi, c'est toute la partie de comment je vais communiquer sur mon business, comment je vais amener des gens à s'intéresser à ce que je fais. Et finalement, je me suis découverte une passion pour le marketing qui devait être là depuis toujours. Je n'avais pas pris la bonne voie au niveau des études. J'étais acheteuse, j'étais de l'autre côté de la table. Donc moi, je recevais les propositions marketing. Et au fur et à mesure, j'ai développé, je me suis formée, j'ai développé moi-même, j'ai expérimenté moi-même pas mal de choses. Et aujourd'hui, je propose une méthode qui est une méthode dite de marketing d'attraction ou d'inbound marketing et qui est une façon différente de ce qui se fait aujourd'hui, que tu as pu évoquer, le marketing plus conventionnel qui est l'outbound, où on va aller chercher les gens, les démarcher et leur promettre la lune. Donc voilà, ça c'est ce que je fais maintenant.
Super, merci. Alors, pour le coup, en intro, on a parlé, pour commencer, par du personal branding. Est-ce que tu peux déjà me toucher quelques mots là-dessus et puis après, on va décortiquer un peu.
Yes, alors le personal branding, c'est une façon de présenter ta marque qui est centrée souvent autour du fondateur ou de la personne qui porte le projet. Et qui clairement, et je pense, un choix vraiment stratégique à faire quand on lance notre business, de se dire, est-ce que je monte une marque institutionnelle? Est-ce que ma marque sera plus autour de mon offre ou de mes produits? Ou est-ce que je monte une marque personnelle? Parce qu'on a des approches qui ne sont pas tout à fait les mêmes, avec des résultats qui ne sont pas tout à fait les mêmes non plus, et des conséquences qui ne seront pas tout à fait les mêmes. Et la marque personnelle, c'est justement basé sur le concept de qui le fondateur ou qui est cette personne va permettre de créer une connexion profonde avec son audience, avec ses clients, et qui va faire finalement que les gens vont plutôt te choisir toi qu'un concurrent qui offre exactement la même chose. Mmh. Et créer sa marque personnelle, ça a l'air facile comme ça. On peut peut-être penser que sur les réseaux sociaux, ça ressemble à de l'influence parce qu'on parle beaucoup de nous finalement. En réalité, ce n'est pas une démarche qui est si évidente que ça, parce que ça demande énormément de connaissance de soi et de dépasser pas mal de barrières et de blocages qu'on a à l'intérieur, qui sont le regard des autres, qui je suis moi pour parler de ça, etc., etc. Est-ce que ça répond à ta question en termes de définition?
Oui, après, oui, bien sûr. C'est le début de ce qu'on j'aimerais bien revenir au départ de ce que tu m'expliques. Comment est-ce que, par rapport à quoi on prend la décision de dire je communique au niveau de mon agence ou je communique au niveau de moi?
Ouais.
Alors, vraiment personal branding agence.
Oui, c'est pas évident. Hein. C'est pas une décision qui est très évidente. Parce que, comme je disais, il va y avoir des conséquences différentes selon l'une ou l'autre. C'est vrai que si tu choisis de faire une marque autour du personal branding, ben, il va falloir se rappeler qu'à un moment donné, les gens ils viennent vraiment pour toi. Donc, si toi, tu veux prendre un pas de recul dans ta marque, ça veut dire qu'il y aura besoin de faire un switch sur une marque plus institutionnelle à un moment donné pour que les gens ne soient pas déçus si d'un seul coup, ben, c'est des collaborateurs hein, qui finalement sont mon relais, etc. Donc, ton nom va rester important à un moment donné dans la tête des gens, puis qui tu es, puis les gens ils vont espérer travailler avec toi. Maintenant, qu'est-ce qui aide cette décision? Je trouve qu'aujourd'hui, quand on se lance et qu'on est indépendant ou solopreneur, c'est quand même une très très bonne façon de commencer à développer une audience que si on lance d'un seul coup une agence, puis toi, dès le début, tu sais que vous allez être 5-6 et que tu ne seras pas tout seul. Ben, du coup, le personal branding, vous pouvez l'ajouter, ça peut être une sous-couche. Moi, je partirais plus sur une marque institutionnelle. Donc déjà, ça, c'est un angle qui nous permet de décider au début est-ce qu'on prend l'un ou est-ce qu'on prend l'autre, sachant que c'est jamais trop tard aussi de développer son personal branding. On peut le faire plus tard, même quand on a lancé une marque institutionnelle, pour humaniser notre marque. Alors, et finalement, qu'est-ce que les grandes marques recherchent aujourd'hui? Elles recherchent à cette humanisation. On le voit avec les influenceurs. Pourquoi est-ce qu'on prend des influenceurs? Pourquoi est-ce qu'on prend des acteurs ou des actrices comme Muse, par exemple, pour présenter nos produits? Pourquoi on utilise l'UGC aujourd'hui? C'est justement pour ramener cette partie d'humain derrière un nom où on n'arrive pas à se rattacher à quelqu'un parce que c'est une grande entreprise.
Ça, je comprends. comment à notre niveau, si je comprends bien, les conséquences en fait du choix ne sont pas forcément des conséquences gravées dans le marbre, parce qu'on peut faire, on peut partir du personal branding et puis ensuite bien expliquer que l'agence a grandi, et puis ça c'est plutôt du marketing dans le temps. L'inverse est possible tout à fait aussi. Donc, est-ce que ça, c'est les seules conséquences à ce choix-là ?
Je dirais que les autres conséquences d'aller vers le personal branding, comme un peu comme je le disais tout à l'heure, c'est que quelque part, déjà, quand on va travailler sur notre marketing, il y aura beaucoup de travail, quoi qu'il arrive. On va essayer de comprendre notre client idéal, on va essayer de proposer nos offres de manière la plus irrésistible possible, il faut qu'on price, etc. Il y a tout un tas de choses qu'on va faire. Maintenant, quand on va vers le personal branding, il ne faut pas se leurrer, ça demande une connaissance de soi. Donc, ça demande une couche de travail supplémentaire parce qu'on ne peut pas juste... parce qu'on ne peut pas juste dire bah, « je me lance dans le personal branding » sans vraiment savoir bah, qui on est, sans avoir travaillé tous ces éléments qui sont... Moi, j'aime bien donner cette image tu as un iceberg, grosso modo, ce qui dépasse de l'iceberg, souvent, c'est ce que les gens voient sur les réseaux sociaux. Et dessous, il y a une couche énorme qui est cachée, qui est immergée, où on a travaillé justement énormément sur notre marque. On a travaillé sur bah, qui on est, quelle image on veut renvoyer, la maîtriser quelque part aussi un peu. Hein, malgré l'authenticité, on veut aussi avoir cette maîtrise. Qu'est-ce qui nous a fait choisir ces couleurs ? Qu'est-ce qui nous fait choisir ce type de photo, ce type de texte, etc. Et donc, ça demande du travail. Ça, ce serait pour moi aussi une des principales conséquences à considérer quand on fait le choix d'aller vers le personal branding. Maintenant, si je veux prendre une conséquence positive, parce que là, je me suis tournée un petit peu vers le négatif, bravo Betty, c'est de se dire aussi que quand on se lance vers le personal branding, on se lance aussi dans un processus de création de liens presque indéfectibles avec notre audience. Mmh. C'est vraiment ce truc de « je vais créer une fanbase ». Là, je crée une relation. C'est pas une relation qui va juste durer le temps d'une transaction. On est aussi dans un processus de fidélisation où les gens vont vouloir travailler avec nous, puis revenir avec nous. Et c'est ça qui est génial. Et c'est ça que moi, j'adore aussi par rapport au développement de sa marque de cette façon-là.
Ensuite, tu as dit aussi, les résultats sont différents quand on choisit entre justement le personal branding ou le branding au niveau de l'entreprise ou d'une marque. Tu as dit aussi les résultats sont différents dans nos choix. Est-ce que tu peux m'expliquer ça ?
Les résultats, alors c'est un peu ce que je disais juste avant sur la question d'avance sur le fait que tu vas commencer à créer une communauté de clients, de fans, des gens qui vont te rester fidèles pendant un petit moment. Et qui font que, je pense que dans le personal branding, on a une espèce d'effet cumulé qui marche très très bien, c'est-à-dire que les gens nous découvrent de plus en plus. Et puis au bout d'un moment, vu qu'on a tellement rajouté d'éléments, qu'on a communiqué autour de ce qu'on propose, autour de notre marque, autour de qui on est, que boum, tu vois, il y a un achat qui va se faire de manière hyper spontanée. On a l'impression, et là, c'est là où je défais aussi ce que les gens racontent sur les réseaux sociaux, c'est d'un seul coup, tu vas passer à plus 100 clients. Et ben, en fait, c'est pas vrai, ça va être un résultat de l'effet cumulé que tu vas pouvoir créer avec le personal branding. Mmh. Et qu'un jour, les gens, toutes les graines que tu as plantées, ben, elles vont pousser et les gens, ils seront prêts à venir vers toi. Donc, ça demande aussi quelque part de la patience. Hein, c'est moins rapide que d'un seul coup si tu fais une grosse campagne de pub Facebook où tu vas aller attirer les gens directement vers ton produit. Donc là, potentiellement, tu as plus d'achats de manière immédiate. Maintenant, selon ce qu'on propose, ça peut être intéressant de créer cet effet cumulé parce que l'effet cumulé peut nous permettre à un moment donné que les gens, ils sont dans notre univers et la première fois où ils investissent, ben, ils investissent déjà pour des milliers d'euros. Tu vois, ça peut aller aussi très vite en termes de montant parce que la confiance, elle est là. Donc ça, tu vois, c'est le type de résultat que moi, je peux observer et qui, je trouve, est construit grâce à tous les éléments qu'on va mettre en place dans le personal branding.
Bien sûr. Si je peux te pousser un tout petit peu, quand on... Justement, on va mettre en place le dessous de l'iceberg. Donc, ça veut dire qu'on va travailler d'abord, effectivement, sur notre communication, sur nous, sur nos passions, d'abord... je recule encore 2 secondes. D'abord, on travaille sur, on doit se connaître. On doit vraiment savoir qui on est pour pouvoir bien communiquer et trouver cette audience qui va nous suivre. Ensuite, on va trouver notre communication autour de notre personne, mais forcément aussi un peu notre offre, ce qu'on fait, etc. Et puis ensuite, on peut lancer une grosse campagne pour concrétiser un peu tout ça. Dans le temps, et moi, je déteste les gens qui disent « oui, en 3 semaines, c'est bon ». Dans ton expérience à toi, quand on lance une campagne comme ça, qu'on le travaille vraiment de A à Z, combien de temps il te faut à peu près pour mettre tout bien en place ?
Yes. Alors, bah, moi, je l'ai testé sur pas mal de formats, en format individuel, en format de groupe, tu sais, dans mes offres, finalement, avec mes clientes. Et d'expérience, aujourd'hui, moi, je le vois 3 mois. C'est un travail de 3 mois que je donne à mes clientes où on est timé. Pourquoi timé ? Parce que autrement, bah, on a vraiment tendance à procrastiner puis à pas faire. Et du coup, moi, je pense qu'en 3 mois, tu peux déjà révéler quelque chose de totalement différent sur tes réseaux sociaux. Et c'est ce que je vois et que je fais avec mes clientes. Donc, 3 mois, c'est quoi ? Ça peut paraître énorme, hein, pour certaines personnes. Okay. Et en même temps, ce n'est pas grand-chose quand tu regardes la vie d'un business pour poser toutes ses fondations, pour te poser les bonnes questions et pour pouvoir commencer vraiment à aligner ce que tu proposes sur les réseaux sociaux à qui tu es. Parce que le plus dommage que j'observe la majorité du temps, c'est qu'on néglige énormément que finalement, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est quand même un monde qui est visuel, un monde qui est extrêmement rapide, où on se fait scroller en 2 secondes. Et quand je ne maîtrise pas mon image, potentiellement, je me fais scroller pour les mauvaises raisons. Parce que j'ai envoyé des micro-signaux qui sont tout à fait contraires à qui je suis en réalité ou aux messages que je veux envoyer. Puis en fait, il y a tous ces ajustements qui vont se faire en court terme ou en long terme. Maintenant, l'essentiel, c'est vraiment de savoir et de dire, mais moi, je veux renvoyer quoi ? Je suis qui ? Je suis qui dans la vraie vie ? Et comment je fais pour faire en sorte que les gens ressentent qui je suis aussi à travers un écran, tu vois ? Et ça, c'est une vraie difficulté.
C'est compliqué, ça, quand même.
Oui, absolument, c'est compliqué. Moi, j'aime bien donner l'image que... et c'est là où, encore une fois, l'effet cumulé, le fait que tu vas créer des contenus qui vont s'ajouter les uns aux autres, ça va permettre d'avoir comme, tu sais, si tu avais une grande image où tu as des pixels, tu vois. Et au début, les pixels, ils sont gros parce que tu donnes des infos vite fait, quoi. Tu donnes quelques infos de ci, de là. Au fur et à mesure où les gens te suivent et que tu partages cette marque personnelle sur les réseaux, les pixels, ils diminuent en taille, ils deviennent de plus en plus petits, ce qui fait que l'image devient de plus en plus claire.
Oui, bien sûr.
Et du coup, les gens commencent vraiment à avoir l'impression de te connaître. Alors, bien sûr, on ne connaîtra jamais à 100% une personne qui est derrière son écran. Ça, c'est clair et net. On ne remplacera jamais, par exemple, le fait de rencontrer en vrai, les personnes et d'être dans la même pièce et de passer du temps avec, enfin tu vois. Maintenant, tu peux vraiment travailler et faire en sorte que cette image qui aujourd'hui est méga pixelisée devienne de plus en plus nette pour ton audience.
Et ça, tu le fais en contrôlant ton image, en contrôlant tout ce que tu mets en avant sur les réseaux. Maintenant, me vient une question. Tu pars en fait dans ce que tu dans le personal branding, tu pars en fait de toi.
Oui.
Là-dedans, à quel moment tu rajoutes ton client idéal ? Ou est-ce que là, je fais une fausse route ?
Ah non, tu ne fais pas une fausse route. En fait, le personal branding, ça va être une rencontre entre toi, qui tu es, et ton client idéal. Donc souvent, il y a des résonances, en fait. On va créer plein de résonances et plein de points en commun. Tu sais, c'est cette impression que la première fois que tu rencontres quelqu'un dans une soirée et qu'elle te dit « Ah, mais tu as grandi à Lyon ?» Mais moi aussi, j'ai grandi à Lyon. Ah, mais tu connais un tel ? Ah, ben ouais, j'étais dans telle école, etc. D'un seul coup, une distance avec un inconnu qui te paraissait des kilomètres, ben ça devient des centimètres parce que tu as créé des résonances, tu as créé des points communs, tu as créé des ponts, en fait, avec cette personne. Et ça permet d'aller plus vite dans cette connexion. Donc, comment on crée cette résonance ? Comment on crée ces points communs ? Bah déjà, comme je disais, bah, on se connaît sans soi. Hein. Si tu ne sais pas que tu es allé à Lyon, ça va être compliqué de dire que tu es allé à Lyon. Et aussi, de t'intéresser à ton client idéal. Tu sais, de lui poser la question.
Oh, mais c'est drôle. Ouais, non, mais oui.
Et de lui parler de Lyon, potentiellement.
Tu ne vas pas pouvoir communiquer.
Ben oui, c'est ça.
C'est logique. Et puis, de poser les questions à ton client idéal, pardon.
Oui, de poser les questions à ton client idéal. Et puis, une fois que tu sais que ton client idéal, il est de Lyon, bah vas-y, go, parle de Lyon, parce que tu sais que c'est ça le point commun que vous avez, c'est ça le truc qui vous relie aujourd'hui. Et du coup, c'est d'aller mettre en avant ce qui correspond et à ton client idéal et à toi, c'est vos points communs finalement.
Et ça peut être en fait, c'est la création de rapport avec ton client idéal, ça peut être, peu importe, ça peut être le fait que ton client idéal aime travailler, ça peut être qu'il aime tout ce qui est artisanal, voilà. Ça peut être énormément de choses, il faut juste entre guillemets, parce que c'est du travail, il faut juste le trouver. Toi, tu dis 3 mois. 3 mois pourquoi ? 3 mois pour te connaître et communiquer ?
Oui, 3 mois pour
juste pour communiquer, c'est comment ?
Oui, alors là, je te parle de mon offre signature, ça s'appelle Attraction. C'est 3 mois où tu vas aller, bien sûr, te connaître. On va faire tout un chemin de connaissance. Après, c'est pas le... J'en ai fait le truc le plus efficace possible et le plus digeste, parce que je sais que ce processus de développement personnel, il peut faire peur à pas mal de personnes, parce que ça demande pas mal de sucre pour notre cerveau, n'est-ce pas ? Et nos cerveaux sont un peu lazy sometimes. Ouais. Donc, on va aller travailler sur qui tu es, sur cet aspect aussi de l'image à l'extérieur, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a une adéquation dans ce que je fais aujourd'hui, dans ce que je renvoie ? Comment j'ajuste ? On va travailler sur le branding, bien sûr, et maintenant, on va travailler sur des trucs qui sont essentiels, comme c'est quoi le message ? Et qu'est-ce que je veux transmettre au monde, comment je le raconte, c'est quoi le type de contenu que je poste pour parler de mon message, et puis surtout, parce que moi je parle de tout ça dans le cadre du business, on n'est pas là pour faire de l'influence, comment je fais du lien avec mon offre et que j'appelle justement mon client idéal dans mes offres à travers mon contenu.
Si tu es au départ de ton entreprise et donc ton client idéal, tu sais pas.
Oui.
Tu ne connais pas. Ou tu veux un client idéal qui finalement est vraiment pas dans ton cercle direct. Comment est-ce que tu pallies à ça ?
Yes. Alors, il y a plusieurs façons de travailler son client idéal. Très souvent, moi, j'ai envie de dire que notre premier client idéal, c'est nous-mêmes. Déjà, la connaissance de soi, ça va nous permettre d'affiner pas mal de choses. Je ne sais pas, tout à l'heure, tu parlais des différents éléments qui vont... On parlait des éléments qui vont faire ce pont, ce point commun. Ça peut être des idées, ça peut être une histoire commune, ça peut être des valeurs. Donc, d'aller chercher ça déjà en nous. Le client idéal, souvent, c'est une version précédente de nous, tu vois, qui n'a pas fait certains pas ou certaines réflexions ou certains déclics que nous, on a fait. Donc, on peut l'accompagner à nous rejoindre sur une certaine... sur une même vision de la vie ou sur le même lifestyle ou, tu vois, sur différents éléments. Ensuite, moi, ce que j'aime bien, c'est d'aller chercher ce client idéal en termes quali. Donc, ça veut dire comment je peux, à chaque fois que j'ai l'opportunité, avoir des discussions où je pose des questions et j'écoute ce que me racontent les gens en face de moi. Ouais. Et de me poser toujours la question, ah ok, c'est hyper intéressant, ça je ne l'imaginais pas. Cette personne-là, c'est potentiellement, oui, un client idéal. Ah, cette personne-là, sa façon de penser, ça ne me convient pas du tout. Ce n'est pas du tout mon client idéal. Et tu vois, et de prendre note au fur et à mesure de tout ça. Ça peut se faire dans la vie. Ça peut se faire avec des prospects. Ça peut se faire avec nos clients actuels aussi, de se poser la question dans toute la liste des personnes avec qui j'ai déjà travaillé. C'était qui, et moi, j'aime bien dire ça, c'était qui mon client relou, c'est avec qui je ne veux absolument plus travailler jamais, et de l'identifier, cette personne-là, parce qu'elle est importante pour plus travailler avec.
Oui, bien sûr.
Savoir justement comment je peux faire en sorte de la repousser, parce qu'il y a vraiment cet aspect aussi dans tout ce que je dis dans le marketing d'attraction. C'est les deux côtés d'une même pièce, c'est l'attraction et la répulsion. Et en fait, comment je peux repousser ces gens-là dans mon contenu en étant hyper au clair que si tu veux ça, ce n'est pas avec moi que tu vas le trouver, en fait. Donc, il y a plein d'autres gens qui peuvent le faire très, très bien. Vas-y. Ouais. Et justement, aller aussi qualifier tout ce qui se passe dans la vie de mon client idéal à travers ces études de marché. Mais tu vois, ce n'est pas vraiment des études de marché formalisées comme on peut l'entendre, justement, sur des grandes masses. Là, on est plus sur de la qualité et d'avoir ces entretiens qui nous permettent vraiment de savoir qui est ce client idéal et d'aller le travailler dans le détail.
De savoir ce qui est réellement important pour lui pour pouvoir plus communiquer dessus.
Oui.
Okay. Ensuite, sur ta page, tu parles aussi pas mal des pensées empestives et de l'auto-sabotage, ce qui est quelque chose qui, dans mon métier, mais je pense qu'il est dans la plupart des métiers créatifs, est très présent. qu'est-ce que toi, tu as mis en place pour avancer et plutôt faire taire cette partie-là?
Alors, je pense que justement, cette partie-là, on l'a fait trop taire. C'est pour moi, tous ces processus et ces mécanismes, ils sont hyper inconscients et hyper silencieux jusqu'au jour où tu te dis, mais punaise, ça fait la cinquième fois que je vais droit dans le mur. Et comment ça se fait que je reproduis exactement la même chose? Je me suis déjà plantée 4 fois, quoi. Mmh. Et c'est là où, en fait, c'est important, je trouve, de leur donner la parole ou en tout cas de les écouter de ce qu'elles sont en train de raconter et dire de nous. Donc moi, ce qui m'a beaucoup aidée, ça a été déjà de devenir coach et de me faire coacher, tu vois. De comprendre tous ces concepts qui disent que une pensée va générer une émotion, qui va générer un comportement, qui va générer des résultats. C'est la chaîne très logique qu'on connaît. Et du coup, si je ne vais pas choper la pensée, je vais juste subir. Je vais être en colère, je vais avoir peur, je vais être frustrée. Et puis, je vais agir en conséquence et en fonction de tout ça. Et c'est là où on s'auto-sabote, c'est là où on s'auto-limite, c'est là où on n'ose pas faire, c'est là où on s'engage, on ne tient pas nos engagements. On les connaît, tous ces mécanismes qu'on met en place. Et c'est d'aller choper cette pensée. C'est soit a posteriori parce que on n'a pas toujours conscience, soit de devenir justement de plus en plus conscient vis-à-vis de nous-mêmes parce qu'on a déjà vu passer le truc une fois, deux fois, trois fois, puis là on se dit ok, c'est bon, je l'ai reconnu, il est de retour, it's back. Donc j'ai déjà vu, je sais exactement ce que tu veux dire et de travailler là-dessus, quoi, tu vois, finalement. Donc moi, ce qui m'a aidé, c'est d'avoir ce chemin. Moi, de conscience de tous ces processus et phénomènes à l'intérieur de moi, de me faire aussi accompagner. Je pense que c'est important parce que tout seul, et moi, je suis coach depuis des années, donc même moi, je laisse passer des trucs. Même moi, il me faut du temps pour voir des trucs qui se passent à l'intérieur de moi. Ça veut dire que vis-à-vis de nous-mêmes, on est aussi complètement aveugle sur certains éléments. On ne veut pas les voir ou on n'ose pas les voir. Et quand tu as quelqu'un d'autre qui t'accompagne là-dessus, t'accompagne sur ton mindset, et c'est là où on parle beaucoup de mindset de l'entrepreneur, et tu arrives à mettre le doigt dessus et tu arrives à avancer et le dépasser. Donc c'est vraiment d'aller se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui finalement je m'intéresse à ça, est-ce que j'investis sur moi vis-à-vis de ça, parce que ça nous auto-limite dans nos business, très clairement. Et si on ne bosse pas dessus, c'est hyper dommage parce que finalement, moi, je le vois aussi comme l'entrepreneuriat, c'est notre meilleur chemin de développement personnel. C'est un choix qu'on a fait qui n'est pas la facilité. Clairement, il y a des moments qui sont hyper compliqués, hyper difficiles. Maintenant, on peut en sortir vachement grandi vis-à-vis de nous, qui on est, et de la sagesse ou de la maturité, ou vous l'appelez comme vous voulez. Le fait de grandir, en fait, un peu plus chaque jour à travers tout ce qu'on vit.
Il est donc important peut-être de dire que ce n'est pas caca boudin de marier le perso et l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, on dit aussi beaucoup. Moi, j'entends beaucoup de choses puisque je suis forcément dans ce podcast. Je parle avec beaucoup de gens. Forcément, il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais attends, maintenant, il faut adosser, vraiment adosser ta posture d'entrepreneur. »
Ouais.
Ouais, mais dans ce que tu dis, si j'entends bien, tu dis que être en phase avec toi-même perso va pouvoir. Ma phrase, elle est longue, mais je vais la sortir pendant que je la pense, en fait. Donc, du coup, c'est parfois un peu compliqué. Quand tu es bien en phase avec toi-même, tu connais tes pensées en pestif, tu sais que tu vas travailler dessus, ça va beaucoup plus, en fait, faire la fondation pour une posture d'entrepreneur d'autant plus solide.
C'est exactement ça. Moi, je suis calme. Ouais, moi, pour moi, c'est clair et net à 100%. Après, ça dépend vraiment du cadre que tu aimes. Moi, je te dis, je m'adresse surtout aux indépendants et solopreneurs. Ouais. Quand tu es toute seule à être capitaine de ton navire, si le capitaine, il est malade, le bateau, il fonce droit dans les rochers. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu es 10 dans ta boîte, c'est clair que ce truc-là, il est moins fort. T'as peut-être moins besoin d'être tout le temps, toi, dans ces réflexions, de te poser des questions, d'être bien finalement dans ton business et dans ta vie, d'être au mieux, on va dire. Quand t'es toute seule, t'as pas le choix. Et je vois que moi, c'est ce que je vis, c'est ce que aussi la majorité de mes clientes traversent aussi. Et c'est pour ça que d'avoir une base solide, d'un mindset de résilience, d'un mindset de, bah, d'apprentissage et de croissance, tu sais, le growth mindset. Pour moi, ça, c'est des qualités minimum si tu veux durer. Parce qu'autrement, c'est trop dur, quoi. Et à un moment donné, ça capote.
Oui, bien sûr. Alors, revenons un peu au côté technique des choses. Toi, tu es, si je comprends bien, tu es axé Insta ou est-ce que... C'est ça. Et donc, Instagram, on a assez facilement, je trouve, des excuses pour dire pourquoi ça ne marche pas. Il y a l'algorithme, il y a le... De toute façon, il y a l'algorithme qui est visiblement, comme pour Google, notre énorme ennemi. Et c'est de sa faute que ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses des excuses qu'on peut se donner quand ça ne marche pas? Et comment est-ce qu'on peut remédier à ça?
Ouais, bah, je crois que si tu veux parler d'excuses, tu ne parles pas à la bonne personne.
Vas-y.
Parce qu'en fait, je vais taper du poing. Je pense qu'on a, tous et toutes, mais tellement de bonnes excuses dans notre vie à ne pas faire les choses. Alors bon, là, tu cites l'algorithme, mais moi, on peut entendre tellement de choses.
Bref.
Bah, elle a une plus grosse communauté, donc c'est normal que ça marche mieux pour elle. Oui, mais elle, ça a l'air tellement facile pour elle, parce que si, parce que ça. Donc, c'est toujours plus facile pour les autres, puis c'est toujours tellement difficile pour nous, en fait. Ouais, mais elle a pas d'enfant, ou elle a un mari, moi, j'ai pas de mari, tu vois. Toutes les circonstances de ta vie, et l'algorithme en fait partie, hein, tout ça, c'est des excuses que tu te donnes pour pas aller au bout de tout à tenter, à essayer. Et finalement, pour procrastiner, pour pas faire les choses, etc. Moi, mon mindset, c'est vraiment de dire finalement, on a tous et toutes des conditions dans notre vie qui font que c'est pas évident. Tu vois, c'est pas évident. Et si, y a bien des gens qui réussissent avec cet algorithme. Tu sais, pourquoi pas toi? Parce qu'est-ce qui ferait que bah, toi, tu serais puni et que l'algorithme t'en veut personnellement? Je pense qu'on rentre aussi dans des côtés, quand on se cherche des fausses excuses comme ça, on sort totalement du rationnel. On est totalement bloqué dans une partie de notre cerveau où on se raconte des histoires, où on est totalement illogique, on est dans nos émotions. De quoi? Ben, de peur. Hein. Et là, on revient sur les fameuses émotions qu'on subit, que je disais tout à l'heure, et qui font qu'on perd ce truc de dire bah, « mais non, là... Non, l'algorithme m'en veut personnellement, ça n'existe pas, les gars. Donc, arrêtez, à part si vous avez mis des photos de nudes, à part si vous avez importuné les gens, à un moment donné, il n'y a pas de shadowban, en fait, sur les réseaux sociaux. Et on le voit tous les jours, en fait. Tu peux avoir une croissance exponentielle sur Instagram du jour au lendemain. Donc, c'est pas que l'algorithme t'en veut pour le reste de ta vie.
Ça, je comprends. Donc, ça, c'est que des excuses.
C'est que des excuses, effectivement. Bon, voilà,
on les met de côté. Bien prendre le temps de poster régulièrement, de faire les choses correctement.
Oui, et puis c'est là où quand ton côté rationnel reprend, tu te dis, et j'aime aussi beaucoup donner cette métaphore, tu sais, je disais, bah, l'être humain, il ne veut pas consommer beaucoup de sucre dans sa tête, il est un peu fainéant, bon, allez, je pose le mot, l'être humain est une feignasse. Et du coup, on voudrait que ce soit du tout cuit, tout de suite.
Oui, oui, parce que ça tombe tout de suite.
Tout de suite. Donc moi, si je me lance sur Instagram, puis j'ai commencé à faire des posts, bah, j'imagine que tout de suite, je vais avoir des gens qui sont à donf et qui vont vouloir m'acheter des trucs. 999, parce qu'en fait, tu as une compétence à les maîtriser, de communication. Et on n'espérerait pas, par exemple, que du jour au lendemain, tu deviennes pianiste virtuose, puisse improviser un morceau de ouf. Parce que ben, pour arriver à ce stade-là, on oublie qu'il y a eu des années d'entraînement, de d'abord faire ses gammes, apprendre ses notes, répéter des morceaux par cœur une fois, deux fois, 100 fois, 1000 fois, jusqu'au moment où effectivement, on aura atteint un tel niveau de maîtrise dans notre compétence qu'on pourra devenir virtuose, faire des impros, créer un morceau même. Et la difficulté, c'est que souvent, on observe les gens qui réussissent et qu'on occulte totalement le fait qu'il y a eu un chemin avant, et que les gens, ils ont dû apprendre. Donc, il y a des choses à faire et des choses à mettre en place, effectivement. Allez vers la régularité, voyez chaque activité, petite tâche que vous faites dans votre business comme un entraînement. Et l'entraînement nous permet de nous améliorer jusqu'au jour où ce sera facile, en fait. Et ce sera les doigts dans le nez. Et toi aussi, tu pourras juste improviser et avoir des résultats de ouf de manière immédiate. Maintenant, il y a un chemin, en fait, pour y arriver.
Bien sûr. Il y a un livre là-dessus qui s'appelle les... J'ai que le titre en anglais, qui est les Outliers. Et qui parle justement que tu as besoin absolument à peu près 10 000 heures pour être experte dans une matière.
Exactement.
Forcément, ça va parler de Bill Gates qui, effectivement, aujourd'hui est quelqu'un qui a extrêmement bien réussi, mais il ne faut pas oublier qu'il a fait 380 prototypes dans les garages avant de pouvoir le faire, etc. Et ça va pour tout. Il faut juste être conscient, je pense, et c'est là où je trouve Instagram parfois un peu traître, c'est qu'on ne montre que le beau côté. Mm-hmm. La jalousie fait quand même partie de cette démarche.
Carrément. Donc, il y a un côté, et c'est là où le personal branding revient sur la table, parce qu'il nous permet d'amener de l'humanité dans notre contenu et justement de casser cette image de perfection. Mmh. Et je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, parce que c'est très facile aujourd'hui sur les réseaux sociaux de basculer vers du perfectionnisme et de montrer que ce qui est beau et qui fonctionne bien, choisir que les plus belles photos de nous, choisir que les vidéos où on est magnifique, etc. Maintenant, le problème quand on est solopreneur, indépendant et qu'on veut attirer nos clients à travers ça, c'est qu'on attire des gens qui ne nous connaissent pas vraiment, qui vont être attirés par une image qui est fake. Mmh. Quand on est dans l'entrepreneuriat, pourquoi c'est d'autant plus dangereux ? C'est que on est des humains. Et peut-être, il va y avoir des boulettes, il va y avoir des délais, il va y avoir des retards, il va y avoir je ne sais pas quoi qui va se passer dans notre vie. Puis on est indépendant, on est toute seule, je te rappelle. Donc potentiellement, on va devoir dire « Ah ben là, je suis désolée, je dois changer notre rendez-vous parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie, etc. » Si tu n'envoies qu'une image parfaite de toi, tu vas aussi avoir une clientèle qui va être ciblée, qui va avoir des expectations, qui ne correspondent pas à qui tu es en réalité et qui du coup va être tellement déçue qu'elle va t'en faire baver. Donc on va avoir des gens qui vont se plaindre, qui vont pas être contents, etc. Donc la perfection, pour moi, dans notre cas précis, n'est peut-être pas le choix le plus judicieux, parce que on va attirer une certaine catégorie de personnes qui ne nous comprendra pas. Donc on sera pas dans le mode fan absolu, prospect, qui nous connaît et qui s'adapte et qui qui comprend certaines choses qui peuvent se passer, et on va créer cet effet de déception quand on va nous rencontrer. Ah ouais, ben tu nous as mis de la poudre aux yeux. Moi, je pensais que tu étais différente, etc. Et je connais des entrepreneurs qui ont joué ce jeu-là, de publier que des photos incroyables, où tu as l'impression que la personne, je sais pas, c'est une star, quoi, qu'elle vit pas sur la même planète que nous. Et quand on l'a rencontrée dans la vraie vie, ses clientes lui ont quand même dit « Ah ouais, je suis quand même hyper déçue ». Et ça, c'est une morceau de claque que tu te prends dans la tête. Je pense qu'on a envie de l'éviter. Donc, autant être humain, autant être soi-même et ramener de la vulnérabilité, ramener une part de vérité aussi sur le fait que nous aussi, on vit des moments difficiles, qu'il y a des trucs qui sont... on a fait des boulettes, qu'il y a des trucs qui sont compliqués. Alors, je ne dis pas de plomber tout son Insta avec ça, parce que les gens, ils ont envie de voir des choses positives. Mmh. Maintenant, c'est aussi des touches qu'on peut ramener dans notre contenu et qui, de nouveau, font diminuer ces pixels sur l'image globale.
J'aime bien cette image de pixelisation. Est-ce que tu as, toi, pour ta communication à toi, parce que forcément, toi, tu as choisi Instagram et tu es à fond. Donc, ça veut dire que tu as mis aussi en place ton personal branding pour toi, tu as vu des coachs. Est-ce que tu as mis en place des règles d'or que tu suis au quotidien pour ton compte, que tu peux partager avec nous ?
Tu dis en termes de personal branding ou en termes de quoi ?
Juste en termes de le matin, tu te réveilles, tu dis « Ouais, il va falloir que je poste aujourd'hui. »
Ah, d'accord.
C'est quoi tes gatekeepers ?
Alors moi, déjà première chose, c'est que j'évite de créer au quotidien le contenu qui va sur le feed. Parce que je publie tous les jours. Donc, si tous les jours, je devais créer un nouveau post qui dure une demi-heure de création, etc., je pense que je pèterais les plombs. Moi, j'ai 3 enfants, hein, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais je suis aussi assez busy au niveau personnel. Donc, moi, je me suis déjà organisée différemment, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, je me pose et je crée mes posts pour la semaine à venir. Donc, moi, je batch. Voilà. Il y a certaines personnes qui te diront « Non, batcher, c'est limiter sa créativité. I'm sorry, moi, je focalise sur l'efficacité et l'organisation aussi. »
Et chacun sa merde quand même. Excuse-moi.
Donc moi je batch et du coup ce qui fonctionne bien avec ce batching, c'est que je le fais depuis des années et que en 2 heures, tu vois, j'ai souvent créé 5-10 posts. Donc ouais. J'ai la paix de l'esprit et j'ai déjà limité la charge mentale de la publication parce que c'est programmé. Puis c'est dans mon téléphone et ça fait tout seul. Maintenant, au quotidien, ce que je vais plus avoir tendance à faire sur mon Instagram, c'est créer des stories. Les stories, pour moi, c'est des stories qui sont spontanées, sauf cas précis de lancement où là, je parle de mes offres et du coup, elles sont préparées. Les stories, je sais exactement de quoi je vais parler. Autrement, c'est plus des stories du quotidien et qui vont embarquer ma communauté sur « Tiens, il s'est passé ça pour moi, qu'est-ce que j'ai envie de partager ?» et qui va faire écho avec mon audience, tu vois. Et ça, je le fais de manière quotidienne et je m'autorise aussi à avoir des jours de pause, hein, parce que voilà, je publie déjà pas mal. Donc ça fait partie de ma routine tous les jours, on va dire. Et le côté création même, création pure, ça n'en fait pas partie. Maintenant, je reçois aussi beaucoup de MP et de commentaires. Donc ça aussi, j'essaye de ne pas le faire au fil de l'eau dans la journée. Je vais le faire peut-être une fois par jour. Mmh. Voilà. Au pire, je me dis, les gens, ils peuvent aussi attendre. Hein, je ne sais pas, je ne joue pas le jeu de l'algorithme là-dessus en étant en mode engagement une demi-heure avant, une demi-heure après. Ça, je ne fais pas du tout. Mmh. Et comme tu peux le voir, ça n'empêche pas d'avoir quand même une croissance sur Instagram. Mmh. Et je vais quand même communiquer et engager avec ma communauté. Au minimum une fois par jour, une fois tous les 2 jours, vraiment, s'il se passe des choses dans ma vie puis que j'ai pas le time. Donc c'est un outil de travail. Maintenant, j'essaye aussi de faire en sorte que ça occupe pas tout l'espace dans ma tête et de pas être connectée non plus toute la journée. Donc j'ai aussi mis un timer sur Instagram où au bout de 50 minutes, ça me dit t'as fait tes 50 minutes, tu continues pas, tu vois. Donc au moins je suis aussi au clair sur ma conso, parce que créer des stories, déjà, tu as utilisé un peu de ces 50 minutes, tu vois. Et donc, je scroll le minimum possible aussi sur Instagram pour limiter ma conso des réseaux sociaux. Et je pense qu'au niveau de notre hygiène de vie, ça peut être important de se limiter là-dessus aussi.
Ça, je comprends. Donc là, effectivement, tu fais du batching. Ensuite, j'imagine que ça se pousse automatiquement. Ça, c'est en place. Tu fais tes stories. Voilà. Quand tu fais tes stories ou tu te poses la question, est-ce que c'est intéressant pour ceux qui sont en face? J'imagine que ta clientèle cible, toi, tu le connais au bout des doigts.
Oui.
Par rapport au fait que tu fais du personal branding, parce que c'est ce que tu fais très clairement, où est-ce que pour toi, tu as mis les limites?
Ouais, alors, ça, c'est justement quelque chose que tu travailles, par exemple. C'est une partie sous-jacente de l'iceberg. D'aller clairement dire, OK, qu'est-ce que je m'autorise à partager? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Qu'est-ce que j'ai envie de garder pour moi? Et puis là, il n'y a personne qui ne va jamais être au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je pense que les gens, ils me regardent peut-être, ou ils regardent les gens sur les réseaux, on se dit, on sait tout. Parce que les gens, ils partagent beaucoup, etc. La réalité, c'est qu'il y a aussi une partie d'un jardin secret qui a été établi hyper clairement. Donc, le cadre, il est là, de choses que je vais poser, que je ne vais pas poser. Donc, une fois que tu as établi ça, tu vois, clairement, ça te facilite la suite aussi pour pouvoir créer au quotidien, capturer certaines choses, raconter certaines histoires avec ton audience, des choses plus personnelles du coup et qui permettent de, encore une fois, amener des éléments supplémentaires à ton personal branding et qui fait que les gens les accrochent.
Je comprends. Qu'est-ce que tu as à dire à ceux qui... j'allais dire n'y arrive pas, mais ça revient sur la discussion qu'on vient d'avoir, mais plus ceux qui se découragent au bout d'un mois et demi, qui recommencent. C'est le truc, les montagnes russes de je poste pas.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est de totalement transformer ton mindset par rapport à ce que tu fais au quotidien. Si tu vois chaque journée comme un entraînement supplémentaire et que t'es pas en train de jouer ton jeu final là, t'es pas la finale contre l'équipe de ouf, etc. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es pas en compétition vis-à-vis de toi-même, c'est-à-dire si t'es pas focalisé chaque jour que Dieu fait vis-à-vis des résultats et que tu vois plus ça comme un processus, je peux t'assurer que ça apporte aussi beaucoup de paix et ça permet d'avancer sans forcément avoir ces périodes où justement on va juger de ce qu'on fait en se disant ouais mais c'est nul finalement, et puis tous les efforts déployés, puis finalement il n'y a personne qui me voit, etc. Ça nous bousille ça sur la régularité quand on rentre là-dedans, parce que du coup d'un seul coup on se dit ben j'arrête. Quand je vois les choses comme un test infini de ce que je suis en train de faire, ah ben tiens je vais faire quelque chose de nouveau aujourd'hui, ah ben c'est cool, on va voir ce que ça donne, tu vois, quand on y va plus comme ça, ben ça nous donne plus envie en fait de continuer d'avancer. Et de ne pas avoir ces moments de doute qui arrivent régulièrement. Et j'ai envie de te dire, douter au bout d'un mois, c'est rien du tout. Reprenons la métaphore du pianiste. En un mois, tu ne peux pas apprendre à jouer du piano. Donc, oui, on va peut-être pas prendre, on espère qu'on ne va pas prendre 10 ans hein, à maîtriser Instagram. C'est clair. Ça va prendre moins longtemps, ça, je peux vous l'assurer. C'est sûr et certain. Maintenant, il y a quand même une période de montée en compétences. Seulement, il ne faut pas juste être passif et se dire « Ok, bon, j'ai compris ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit « On fait des tests. » Ok, donc je fais des tests, je suis à la cool avec et tout. Ce n'est pas juste ça. C'est tester, analyser, ajuster. Ouais, c'est un mindset d'amélioration continue. Donc, je vais tester certaines choses avec mon audience, avec ma communauté. Et je vais voir que d'un seul coup, il y a une petite... Un petit pic. Ah ben c'est quoi le petit pic? Qu'est-ce qu'il y avait dans le petit pic? Qu'est-ce qui a fait la différence pour qu'il y ait un petit pic là? Ok, peut-être que je peux commencer à analyser les ingrédients du petit pic. Ah ben je vais commencer à mettre un ingrédient du petit pic dans mon prochain post, puis on va voir si ça prend. Et en fait, quand tu fais ça en continu, ben, au bout d'un moment, on voit que en testant, ajustant et améliorant, ben, on voit que finalement les petits pics ils commencent à se reproduire. Puis que ça grandit gentiment, et puis que d'un seul coup, il y a un gros pic.
Ouais, bien sûr.
Waouh, alors qu'est-ce qu'il y a dans le gros pic? Comment j'analyse le gros pic? C'était quoi les ingrédients du gros pic? Qu'est-ce qui a plu à mon audience à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle me racontait? C'était quoi le message, etc. Et en fait, c'est comme ça que, pour moi, on va vers une croissance. Et effectivement, c'est toujours la même question de « je vais mettre des efforts » et à un moment donné, en ayant ce mindset-là d'améliorer, d'amélioration continue, ben à un moment donné, les résultats, ils vont venir. Ça, c'est clair et net.
Oui, bien sûr. Et pour rendre ça pérenne, il faut continuer.
Exact. Donc, persévérance.
Okay. C'est quoi la devise de Betty Rice?
C'est embellir, enrichir et élever la vie.
C'est fantastique. Un grand merci, Betty. J'étais ravie que tu étais là.
Avec plaisir. Bon,
j'ai appris. Je trouve ça trop bien. Merci beaucoup et puis peut-être à bientôt.
Yes, à bientôt.
Alors, un grand merci à Betty, coach, formatrice, consultante, mentor. Et puis, surtout, très intéressant, très authentique. J'ai adoré cet échange. Alors, on a parlé surtout du personal branding, de comment il faut commencer. Quand on choisit le personal branding, déjà, il faut savoir si ce qu'on souhaite faire, forcément. Donc, faire le choix très consciemment de communiquer au niveau de ton agence ou au niveau de toi et ton agence, en sachant que la décision n'est jamais gravée dans le marbre, puisque si d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, tu changes d'avis et tu vas vers l'un ou l'autre, ça peut toujours se travailler aussi. Si tu choisis par contre le personal branding, il faut travailler pas mal en amont. Donc il faut déjà se connaître, savoir qui tu es pour pouvoir vraiment communiquer là-dessus et surtout aussi pour mettre les bons gatekeepers pour communiquer sur certaines choses, les choses avec lesquelles tu vas créer des rapports avec ton client idéal. Ça, c'est important. Donc c'est une création assez profonde de trouver une communauté voilà, de clients qui va te suivre dans ton entreprise et qui va te donner du travail. Le départ pour Betty, c'est un travail de 3 mois avant de voir les premiers résultats. Il faut bien noter ça, que ça prend du temps en fait. Et puis ensuite, bien mettre en place ce que tu véhicules pour pouvoir contrôler et maîtriser ton image par rapport à ce que tu as envie de mettre devant les personnes.
Par exemple, je vais vous donner l'exemple, mon exemple à moi. Pour le côté agence, j'ai une communication qui a axé quand même pas mal sur la beauté, la perfection, tout ce qui est beau, confortable et magnifique. Je communique très moyennement sur ma personne à moi, mais beaucoup plus sur mon agence et sur mes réussites. Tandis que côté décopreneurs, je communique beaucoup sur moi, mes plaisirs, mes échecs, mais surtout authentiquement sur ce que moi je ressens dans mon entreprise. Donc c'est vraiment deux approches très différentes que je n'ai pas forcément pris d'une façon consciente. Hein, c'est assez naturel. Peut-être un jour, hein, je vais y réfléchir un peu plus, du marketing de décopreneurs, mais pour l'instant, j'ai aucune envie de le faire. Voilà. Voilà, elle a mis en miettes aussi. Elle a mis en miettes, c'est assez. Je pense qu'on peut le dire ça. Les excuses qu'on peut avoir pourquoi ça ne marche pas au niveau de notre communication. Et donc, on a parlé de l'algorithme, mais aussi des consoeurs à réussite, les choses qu'on peut voir sur Internet, le fait qu'on a 1, 2, 3, 50 enfants, le fait qu'on a un mari qui paye pour tout ou pas. Elle dit très clairement, on a toutes les excuses du monde parce que dans n'importe quel foyer, il y a une excuse à trouver. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas réussir. Et donc, du coup, il faut être consciente de ça. Ce que je trouvais très intéressant, c'est surtout de dire qu'il faut un tout petit peu de temps avant que ça marche. Il faut faire des tests. Et il faut voir ça un peu comme un parcours de longue haleine. Je pense qu'il y a un dicton comme ça du style « il faut profiter du voyage pour, avant d'arriver au but » où la vie est un long voyage et pas une destination. Ce genre de choses. Et je pense que c'est ce qu'elle voulait dire au moment qu'elle dit « bah en fait, il faut tester, il faut avancer. C'est un jeu. Il faut voir ce qui marche, voir ce qui ne marche pas. Et puis, tranquillement, faire ton voyage de communication pour juste monter tranquillement, mais sûrement, en compétence. Déjà, très important, monter en compétence au niveau de ta communication et ensuite aussi monter en termes de résultats au niveau de tes réseaux sociaux. Voilà. Mais elle commence quand même toujours à la base. Il faut être conscient de tes penser, il faut être conscient de ton mindset, il faut être conscient de ce que tu es et ce que tu veux véhiculer pour pouvoir faire la communication en personal branding. Voilà. Merci beaucoup encore Betty, merci à toi, merci au podcast, merci à tous ceux qui m'écoutent, merci surtout à toi qui m'envoie des messages, à toi qui m'envoie des idées pour des invités, à toi qui est enthousiaste et qui écoute, et j'adore toujours autant cette aventure. Bientôt, il y aura d'autres workshops, je sais que ça c'est une question qui se pose, des workshops assurance qui vont s'organiser tout au long de l'année, et puis il y a les podcasts fournisseurs qui sort aussi d'ici peu, voire quand je poste ce podcast, on a déjà commencé. Voilà, ça c'est quelque chose d'ultra excitant qui est en train de se tramer depuis une petite année et je suis ravie d'arriver au bout de cette réflexion-là des podcasts fournisseurs pour vous faire monter en compétence aussi au niveau des matériaux, des produits et autres qu'on souhaite mettre en face de nos clients. Voilà. Je te dis à très bientôt. Ciao.